tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Dans la jolie ville de Marton, à la limite de la Dordogne et de la Charente, un lieu étrange, dominé par un imposant châteaufort, une église, mi-église, mi-fortin, église fortifiée, habitée par un couple. Et Patrick Mindron, qui est le maître de ces lieux et qui a reconstruit en grande partie cet endroit magnifique, va nous parler de sa vie. Qui est Patrick Mindron? Chers auditeurs, je ne le sais pas. Un artiste, un bourlingueur sans doute, un galériste, un restaurateur de châteaux forts. Il va nous expliquer tout ça, certainement, et ce sera sans doute passionnant. Patrick Mindron, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé à Marton et à vous occuper de l'endroit que vous habitez et où nous sommes maintenant?
Mais bonjour. Alors, la vie, c'est toujours simple. Mais la vie, vous avez toujours un passé, vous avez un présent, vous avez un futur. Il s'avère qu'en étant, comme je vous l'ai dit précédemment, en étant adolescent, l'abbé Grateau à Barbezieux restaurait, ou comment puis-je dire, retrouvait les origines de l'église Saint-Mathias. Pourquoi ? Parce que pendant les guerres de protestants, ils avaient écrasé la voûte, et la voûte, avec le temps, les paroissiens avaient dallé sur ses remblais. Donc on ne trouvait plus les bas de ces colonnes, qui étaient très belles et très sculptées. Donc l'abbé Grateau avait décidé d'enlever tous ces gravats sur une superficie énorme, et plus de, je ne sais pas, 1 mètre ou 1 mètre 20 de profond. Donc voilà, donc à l'âge de 12, 13, 14 ans, en famille, entre amis, eh bien, une fois par semaine, on allait enlever tous ces gravats, puis on découvrait un peu des sarcophages, on découvrait ces pieds de colonne. Donc c'était un peu, c'était le début d'une quête, on va dire, je ne sais pas, pas une quête intérieure, mais de remonter le temps, puis d'avoir un minimum de respect par rapport au lieu.
Donc, préadolescent, charentais, vous êtes initié par ce chantier à l'archéologie religieuse médiévale.
Tout à fait.
Et après, qu'est-ce qui se passe?
Alors, après, ce qui se passe, ben, comme beaucoup d'amis, de copains d'école, ben, on range tout en apprentissage. Donc moi, je suis rentré en apprentissage à 13 ans et demi. Et puis après, ben, vous passez plusieurs CAP, et puis vous travaillez dans des châteaux, dans des églises, tant à la restauration de mosaïques, de plats, de maçonnerie. Et puis voilà. Et puis avec le temps, eh bien, on est un petit peu plus sensible au patrimoine. Et puis avec le temps, bah, vous trouvez une chapelle porte à Marton du XIIe siècle, fin XIe, XIIe siècle, chapelle porte. C'est-à-dire que vous avez une première voûte avec la porte de ville, avec des murs d'enceinte qui partaient côté sud et côté nord. Et puis au-dessus, vous aviez la chapelle seigneuriale du seigneur de Marton, Robert de Marton, et c'était voué à la démolition, il y a 30 ans. Alors certes, parfois, je l'avoue, je plaisante très mal, mais j'ai demandé à Daniel Croisard, mon ami, qui est toujours mon ami, qui a résisté à 30 ans de travaux, donc on va dire encore merci à elle d'être restée, et ce que je veux dire, on s'est dit, c'est pas possible. Alors, je n'ai pas dit que j'avais été élu de quelque force que ce soit, mais c'est simplement un petit peu de bon sens. On ne démolit pas une chapelle porte du XIIe siècle. Donc on a tout fait, on a fait ce qu'il fallait faire, on a vendu notre bien, on a pris un petit deux pièces cuisine en location, et puis pendant 5 ans, on a œuvré à la restauration de la chapelle porte Saint-Jean l'Évangéliste de Marton.
Mais vous m'avez montré tout à l'heure des photos, des lieux dans leur état, dans l'état où vous les avez trouvés, et c'était une ruine presque complète.
Ah, la ruine, elle était relativement... C'était vraiment une ruine. Alors, pour la plaisanterie avec Daniel, moi, je lui dis, regarde, cette ruine est à vendre 3 800 euros, il y a près de 30 ans. Et puis, le propriétaire voulait casser la voûte entre la porte de ville et la chapelle. Et pour cette somme-là, il vendait l'entrée de la chapelle avec, bien entendu... diverses corbeaux, diverses chapiteaux, diverses sculptures. Donc nous nous sommes dit non, c'est pas possible, c'est à nous de la restaurer. Donc au niveau de la porte de ville, c'était en relativement bon état. Par contre, au niveau de la chapelle, la voûte du chœur, il y avait une charpente au niveau de l'ensemble de la chapelle, sauf au niveau du chœur où vous aviez une voûte. Mais la voûte s'effondrait. Vous l'avez vu précédemment sur diverses photos. Donc il a fallu... faire des demandes préfectorales, on a barré la route pendant près d'un an et demi, et puis on a démonté tout ce doubleau, on l'a remonté, et puis nous avons œuvré pendant 5 ans. Puis au bout de 5 ans, mon banquier était très distant à mon égard, donc ces hommes-là n'ont aucun humour, aucun, moi je vous assure, aucun humour. Donc j'ai une amie qui passait, et puis elle cherchait une personne au musée Gauguin à Tahiti, pour réaliser une exposition photographique sur Robert Louis Stevenson. Je pense avoir réfléchi 1 minute 30, et puis 3 mois après, je prenais l'avion, puis j'étais au musée Gauguin pour monter une exposition sur Robert Louis Stevenson. J'étais parti pour 3 mois, Daniel est venu me rejoindre, notre fille Océane aussi, et nous avons passé 10 ans à Tahiti.
Alors, pendant ces 10 ans, vous êtes remis de vos premières fatigues, et vous êtes revenu plus décidé que jamais à poursuivre l'entreprise.
Bien entendu, on peut plaisanter, certes, mais on ne lâche pas. On peut tergiverser, on peut plaisanter, j'en conviens, mais quand vous entreprenez quoi que ce soit la restauration de quoi que ce soit, on ne lâche pas, on ne baisse jamais les bras. Donc là, nous avons continué, il y avait un toit, il y avait un plancher, donc on s'est autorisé à simplement mettre des terres cuites au niveau du sol. Donc, donc vous êtes toujours à genoux, pénitent, vous posez, on a plus de 11 000 petites tomates au sol, vous les posez, puis c'est un vrai bonheur. Après, vous posez des fenêtres avec un petit meneau, et puis des vitraux, des petits volets intérieurs, et c'est le bonheur. Et après, d'y habiter, c'est un bonheur aussi.
Est-ce que vous avez connu quand même des moments de découragement ? Ou alors vraiment des aléas auxquels vous attendiez pas du tout, qui ont freiné vos élans?
Alors, c'est pas un excès de zèle, absolument pas. Alors, très bonne question, je vous remercie. J'ai jamais pensé à la chose. Et là, des moments de fatigue physique, mentale ou pécuniaire, jamais. Jamais. Je pense que... Bon, j'ai à peu près un peu plus de 60 ans. Avec le temps, on peut acquérir quand même un minimum de bon sens. Je n'ai pas dit de la sagesse. J'ai dit un petit peu de bon sens. Jamais. Quand vous entreprenez une chose, vous êtes d'abord responsable. D'abord, c'est à vos risques et périls. Bon, on peut très bien vivre heureux dans un petit appartement, peu importe la superficie, être heureux, parfaitement heureux, avec un voisinage sympathique et autre. Là, nous avons décidé de vivre dans une chapelle du 12e, vous l'assumez avec tout ce que ça comporte. Si maintenant il y a le bonheur par rapport au lieu que nous ouvrons aux journées du patrimoine, ce qui me paraît normal, ma position, elle va être relativement simple. Si vous êtes propriétaire d'une maison de campagne, vous clôturez, vous mettez des pancartes interdites au public, nous sommes d'accord. Une chapelle du 12e siècle, je ne ferai pas d'excès de zèle, mais parfois on se sent chacun sa place. On se sent à notre place un petit peu petit. Néanmoins, on en profite et la maison est ouverte, c'est pas une maison, voilà. Et au rez-de-chaussée, nous avons monté une galerie, on fait à peu près 7 expositions par an, 2 à 3 concerts, et ça passe. C'est-à-dire que cette réhabilitation est tout à fait cohérente. C'est pas un projet ubuesque, c'est pas un projet démagogique. Par contre, quoi que vous fassiez, comme je l'ai dit précédemment, il faut avoir un peu les pieds sur terre et puis beaucoup, beaucoup d'humour.
Je pense que vous n'en manquez pas, mais vous avez anticipé ma question justement sur l'usage que vous faites de ce lieu, puisque là vous habitez cet étage qui est superbe. Le rez-de-chaussée, vous l'avez dédié au public. plus encore que l'ensemble du lieu, en faisant une galerie d'art. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette orientation? Est-ce que vous avez une formation artistique? Quelle est l'origine de votre, en dehors du fait que vous avez participé à ces restaurations, l'origine de votre intérêt pour l'art?
Alors, plaisanterie mise à part, parfois lorsque des personnes me posent certaines questions, quel est votre cursus professionnel? Outre le fait qu'avec le temps j'ai dû subir quand même X stages de formation à droite et à gauche, je m'autorise à dire que le seul diplôme que j'ai de l'éducation nationale, c'est mon certificat d'études obtenu en 1968 et il faisait grève. Il y a tout de même un petit peu d'humour. Donc je n'ai pas passé mon examen, mais j'ai eu mon diplôme. Sur ce, plaisanterie mise à part, j'ai appris récemment par rapport à diverses archives que j'avais un arrière-grand-oncle qui était sculpteur et puis qui avait formé pendant près de 2 ans le jeune Rodin. Et puis son fils, Maurice Mindron, habitait l'île de la Cité et au rez-de-chaussée habitait Camille Claudel.
Donc mais vous appelez la génétique à votre
oui.
rescousse.
Mais là, halte aux choses et autres, je ne les ai pas connus. Dans la famille, personne ne les connaît. Et puis on ne va pas se gargariser ou se vanter de quoi que ce soit. Mais néanmoins, parfois, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Cet homme-là, ce qu'il ressent, je ressens les mêmes choses. Mais n'exagérons pas dans ce domaine-là. Pour répondre plus précisément à votre question, le fait d'avoir passé 3 ans au musée Gauguin m'a quand même... J'ai toujours été un petit peu sensible à la créativité, sensible encore plus à Gauguin, outre que certaines personnes intellectuelles et autres parlent de lui, ils intellectualisent vraiment la chose. Moi, Gauguin, lorsque j'étais au musée Gauguin, lorsque je vivais carrément où il a vécu, en plus, il y a une exposition Gauguin en Marquise. À votre avis, quelle est la personne qu'ils ont appelée? J'étais au musée Gauguin, après j'avais ma petite entreprise. Ben, j'étais au Marquise pendant 3 semaines à moi et je ne voulais pas habiter dans une petite pension. Ils ont fait une petite cabane en bois pour moi à 10 mètres de la maison du Jouir. Donc, je veux dire, Gauguin, par rapport à sa puissance créative et puis par rapport à sa relation, par rapport à l'État, par rapport au système colonial, par rapport à l'Église, j'ai quand même un petit peu d'affinité, enfin disons que je le comprends.
Alors là, on va dériver un petit peu, on va faire une petite incidente. Vous avez parlé d'État, dont on sait quelles étaient les relations de Gauguin avec l'État, et ce qu'il en pensait. Est-ce que vous avez été un peu soutenu quand même dans votre grande entreprise?
Vous parlez de la restauration de...
La restauration, oui.
Oui.
On viendra à Gauguin après.
Oui, alors soutenu, oui, j'ai mon ami qui ne m'a pas quitté parce que le jour, je travaillais physiquement, le soir, je dormais très bien et la nuit, je réfléchissais à ce que j'allais faire le lendemain ou le surlendemain. C'est un soutien qui est énorme, donc je peux lui dire merci. Merci.
Vous avez eu un soutien moral et physique de votre ami, mais est-ce que l'État vous a aidé pour reconstruire tout ce que vous avez reconstruit?
Non, partiellement, c'est une propriété privée. Donc vous êtes dans le domaine privé, c'est vous qui l'assumez avec tout ce que ça comporte. Par contre, le fait d'être dans un périmètre classé, vous avez certaines contraintes. Nous avons eu certaines contraintes, pour ne pas le citer, c'était M. Ouzou, l'architecte en chef des monuments historiques. La première fois qu'il est venu, la tension était un petit peu tendue. Pourquoi cet homme d'un certain âge et d'une certaine culture et connaissant bien l'environnement et les restaurateurs en herbe qui vous promettent mont et merveille et puis qui vous détruisent une porte ou une fenêtre du 15e ou du 16e siècle, il avait déjà donné. Lorsqu'il m'a vu, il a vu quel est ce phénomène. Et puis il est passé, Monsieur Zoué est dû passer 6 mois après, et notre relation a été plus qu'amicale. La relation était simple, c'est comme l'attitude était entre le père et le fils. C'est-à-dire qu'il me disait certaines choses par rapport à, surtout par rapport au lion, par rapport au sable, prendre le sable à tel endroit, prendre le sable d'une telle granulométrie. Éventuellement, il me dit, si votre sable est trop fin, vous prenez de la grave, vous la criblez, et vous mettez tous ces petits cailloux jaunes, noirs, marrons, avec votre chaux. Donc voilà, c'était des choses très, très techniques, et la seule, il est passé 3-4 fois, et c'était le bonheur de discuter avec lui. Il y avait une petite complicité, sans excès de zèle, ni de sa part, ni de la mienne.
On va revenir à l'art, dans notre chemin vraiment sinueux. Qu'est-ce que vous avez retiré de votre expérience polynésienne, qui a été quand même un peu plus prolongée que ce à quoi vous vous attendiez?
Oh, c'est énorme. 10 ans à Tahiti, on ne vit pas 10 ans sur une île si vous n'avez pas des affinités avec la population, avec la culture maori, avec la langue maori. C'est bien beau, la carte postale avec les vahinés et les plages de sable blanc, les cocotiers, mais la Polynésie, c'est pas ça. N'oublions pas que vous avez un peuple. Nous avons un peuple qui a une culture. Et en petite plaisanterie, c'est une société matriarcale. Ce qui, comment puis-je dire, au niveau des relations, n'est pas si évident que ça. Moi, personnellement, c'était pour moi un vrai bonheur. Donc, si on résume rapidement, après le musée Gauguin, j'ai créé une petite entreprise et les manifestations ou pseudo-culturelles, le ministère de la Culture faisait appel à moi. On a monté un festival photo. Il y a eu un opéra, L'île du rêve de Pierre Loti. Ben, j'ai réalisé les décors. Il y avait un aménagement de sites archéologiques, notamment le site qui a été reconnu par l'UNESCO il y a 3-4 mois, le site de Rayatea. C'est un grand marae où les prêtres faisaient des grandes cérémonies. Le site de Tapu Tapu Atea. Voilà que je prononce bien la chose. Donc j'ai dû œuvrer sur ce site et maintenant il est classé et l'UNESCO. C'est un vrai bonheur. Par contre, moi j'ai terminé. On va dire ma carrière à Tahiti, ben, il y a déjà une dizaine d'années, avec l'exposition d'originaux de Gauguin. Donc il y avait un original qui venait, avec une conservatrice, un original par avion, et puis l'architecte qui a réalisé l'exposition, Didier Blin, pour ne pas le citer, avait déjà réalisé Matisse et Picasso dans diverses structures. Il est venu au musée des Îles. Il m'a dit, ben Patrick, il y a ça, 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 vous recevez le dossier, moi je pars à Bora Bora. Donc la réalisation d'une exposition, c'était un vrai bonheur, surtout avec des gens d'un milieu auquel j'aurais jamais fréquenté en métropole. Donc on a eu une très belle exposition sur Gauguin, il y a un film qui a été fait, c'est des bonheurs, il n'y a pas de mots.
Quand vous revenez à Marton, et que vous reprenez la truelle, comme vous l'avez fait en revenant de Tahiti, est-ce que vous n'avez pas l'impression de revenir sur Terre et puis d'être obligé de vous atteler à nouveau à une tâche qui n'est jamais terminée, finalement ? Alors, je sais que ça vous plaît qu'elle ne soit jamais terminée, mais malgré tout, l'âge vient, comme vous le disiez tout à l'heure, et on peut ressentir quelques fatigues.
Alors, je vous comprends, mais j'ai toujours fonctionné d'une manière relativement simple, c'est-à-dire que lorsque vous commencez une tâche, vous la terminez. Je crois qu'il y a nos grands-parents qui le disaient, on boit un verre de vin jusqu'à la lie. Et je pense que je dois rentrer dans cette même catégorie mentale, d'attitude. Vous commencez une chose, vous le terminez. On ne baisse pas les bras. Là, nous arrivons à la fin. Nous avons découvert récemment le rempart de Marton, on a trouvé une grotte où la voûte s'est effondrée. Et il y a 30 ans, dans un trou d'échafaudage, nous avons trouvé deux haches préhistoriques que nous avons demandé à des archéos sur Angoulême. Ils nous ont dit ben, les haches préhistoriques, elles ont entre 6 et 7 000 ans avant notre ère. Donc il y a 30 ans, on a trouvé deux haches préhistoriques. Il y a 3 mois, on a trouvé des roches, le début d'une grotte qui s'était effondrée. Donc il y a quand même un certain bonheur. Néanmoins, on va dire que c'est la fin. Je pense que sous un an, nos travaux seront terminés et la vie continuera sous d'autres aspects. Et néanmoins, la galerie, c'est une chose qui est très intéressante pour moi. Pourquoi ? Parce qu'on rencontre du monde et ça rejoint, comment puis-je dire, un sentiment de compagnonnage. C'est-à-dire que vous avez été formé, on vous a donné. Donc maintenant, c'est à vous, avec l'âge, de transmettre un petit peu. Ben, un petit peu de culture, un petit peu d'amour de la pierre, un petit peu de respect d'un minimum de choses, simplement.
Qui travaille avec vous à cette restauration, en fait, de partie du rempart qui assure la transition avec les restes du château dont je parlais tout à l'heure ?
Moi. C'est relativement simple. J'ai deux amis qui sont venus me donner. L'autre jour, on a fait un petit peu de show. On a jointoyé un petit mur de séparation par rapport à la route. Monsieur Laurent, pour ne pas le citer. Et puis, je ne sais pas si j'ai peut-être... Il y a certaines choses que j'aime les faire. J'aime les réaliser. C'est un sentiment qui est ce qui est. J'aime, voilà. Les seuls artisans qui sont passés sur ce lieu sont la personne qui a fait les fenêtres, la personne qui a fait les vitraux, l'électricien et le plombier, bien entendu, mais toute la maçonnerie, le carrelage, les planchers, c'est une chose... J'aimais absolument le faire, me réaliser. Alors, peut-être que de l'autre côté, au niveau des gravats et des choses et autres, c'est peut-être, ça manque peut-être un peu plus de poésie, mais je le fais. Peut-être que je suis dans une période de repentance, mais n'exagérons pas, pas d'excès zèle dans ce domaine-là. Quoique parfois, on peut se poser des questions. Mais je ne préfère pas, je ne maîtrise pas la chose.
Je précise quand même pour nos auditeurs que la voûte, là, dans la partie de ce qui sert donc de logement à Patrick Mandron, est à peu près à 7 mètres.
7-8 mètres, oui, au niveau de la voûte.
Qui vous donne une idée de l'ampleur du travail entrepris.
Oui, et puis le bonheur que nous avons eu, ben oui, mais c'est, on oublie, je vous dis, enfin, comme vous disiez précédemment, la fatigue ou autre. Non, il n'y a pas de fatigue, parce que moi, c'est vous qui avez décidé. Donc, on ne peut pas en vouloir à qui que ce soit. Quand vous subissez une pression au niveau d'un travail, d'une hiérarchie, vous le subissez. Donc, vous avez, c'est une contrainte. Quand c'est vous qui l'avez décidé, on ne peut pas se plaindre. Donc, il faut assurer. Il faut assurer le fait d'être libre, il faut assurer de la restauration, de ne pas lâcher. Ce que je voulais vous dire aussi, qui est peut-être beaucoup plus important sur des états d'ordre, c'est que dans le cœur de la chapelle, nous avons trouvé des brides de peinture qui seraient du XIIIe. Donc, découvrir cela, c'est un bonheur. Quand en 1990, vous enlevez un peu de lierre et vous découvrez des fresques, c'est le moment de bonheur. Et puis après, de les faire partager, c'est aussi sympathique aussi. La DRAC est venue, ils les ont pris en photo, ils les ont inventoriés, et se sont plus ou moins, entre parenthèses, rendu compte que le même artiste avait fait plusieurs chapelles par rapport à cette époque-là.
La galerie, qui se trouve donc au rez-de-chaussée, derrière cette énorme porte qui donne accès à la partie basse de la chapelle, elle est utilisée par qui? Comment trouvez-vous vos artistes? Comment les repérez-vous, puisque si c'est vous qui les choisissez? Est-ce qu'ils viennent vous solliciter? Quelle est la fréquentation que vous avez dans une ville comme Marton, qui a quand même un petit caractère touristique?
Marton a à peu près 660 habitants, donc nous sommes quand même relativement à la campagne, avec tout ce que cela comporte, et nous sommes hors des grands sentiers touristiques entre la côte, La Rochelle, l'île de Ré, l'île de Léron ou la Vendée, et le Périgord. Donc nous sommes un peu bâtards, nous sommes entre les deux, ce qui fait que le tourisme est relativement pauvre, enfin faible. Voilà.
Alors justement, est-ce que ce n'était pas une gageure d'ouvrir une galerie ici, ou est-ce que vous l'avez fait exprès pour être tranquille?
Non, 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 pas de ça, s'il vous plaît, tout mais pas ça. Donc sur ce, nous vous en fait plaisir. Donc en bas, nous avons créé une association, il y a 18 adhérents. Les subsides, il n'y en a pas, donc votre liberté, ben, il faut l'assumer avec tout ce que ça comporte, comme je dis précédemment. C'est surtout une relation d'amis. Il n'y a pas de commission, il n'y a pas de référendum. C'est des coups de cœur sur des amis. On a eu Serge Hambourg qui a exposé des photos sur New York. Il a pris des photos sur le musée de New York. Ces photos, son épouse était directrice du MoMA à New York. Ces photos ont été exposées au MoMA et dans tout New York, toutes les États-Unis. Serge Hambourg est venu exposer ses photos à la galerie en bas. Parallèlement à ça, il avait pris des photos de mai 68, que tout le monde était en grève, sauf Serge Hambourg. Donc ces photos, nous avons exposées il y a un an et demi à la galerie. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes ces photos de Serge Hambourg de mai 68 avec les CRS et autres sur notre site de la Tour Saint-Jean. Vous faites latoursaintjean.com. Vous retrouverez ces photos. Et pour la haute plaisanterie par rapport à cette exposition, la semaine dernière, Madame Giovanni de la BNF à Paris m'envoie un mail me demandant où puis-je trouver les photos de Serge Hambourg pour faire une exposition à la BNF du mois d'avril au mois de septembre à Paris. Donc ça fonctionne, on a une raison d'être, une raison d'exister. Alors Serge Hambourg, si on a une exposition sur Serge Hambourg, c'est qu'il a un vieil ami, Serge Sanchez, qui est écrivain, qui était à France Culture avant, qui s'est réfugié en Charente et qui écrit. Donc par rapport à notre ami Serge Sanchez, nous avons eu Serge Hambourg en exposition. Puis par rapport à d'autres amis, on a eu à grâce à Michel Roufange, une exposition sur des lithos de Picasso.
C'est le bouche à oreille, les relations, c'est bien beau, mais quand même, vous n'exposez pas n'importe quoi.
Alors, vous parlez d'exposition. Le mois dernier, c'était la journée du patrimoine. Il s'avère qu'il y a 5-6 ans, on taira la personne, vaut mieux rester incognito, était à Drouot et a acheté 5 calotypes, 4 calotypes de la ville d'Angoulême, de 1853. Donc cet homme-là les a achetés, nous avons exposé en bas. Donc nous avons eu une belle exposition. Mais c'est plutôt des coups de cœur. Par contre, on a fait, comment puis-je vous dire, nos expositions, on se rend compte que... On a fait aussi une exposition autour de Man Ray, on avait 13 artistes, et vous avez une demande de rencontre d'êtres humains, une demande de rencontre énorme, une demande culturelle énorme. Alors, notre petite structure associative comble ce vide-là. Nous, c'est une galerie, on est relativement libre, donc on se fait plaisir, et c'est des coups de cœur avec des personnes que l'on rencontre, et en général, une exposition au niveau relationnel en amène une autre. Voilà comment cela se passe. Actuellement, on a une exposition de 6 artistes de la région, d'un très très bon niveau. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est intéressant pour nous d'avoir des expositions d'une certaine teneur. J'ai un ami, Franck Brudieu, pour ne pas le citer. Sa dernière grand-mère avait 106 ans. Il me dit, il faut faire une exposition sur ma grand-mère. On a fait une exposition sur Marie Gervais, et en thématique photographique relativement simple, les labours, les scènes de religieuses, les scènes de la vie des champs. Et grâce à qu'un petit village qui est à 10 km, on avait 120 personnes en bas. 120 personnes. Par contre, autant le vernissage de Picasso, on a fait des petits fours de toutes les couleurs, autant l'exposition photographique sur Marie Gervais, sur la doyenne de la Charente, vous aviez de la soupe des légumes, vous aviez du pâté, du boudin et du vin rouge. Et voir ces gens de la campagne qui arrivaient, j'ai vu certaines femmes avec des chaussures qu'elles ne devaient pas mettre tous les jours, elles piétinaient un peu, mais elles étaient présentes. Et que ce lieu soit ouvert, un milieu, on va dire, social ou professionnel, c'est une chose, mais ouvert à la population, c'est indispensable. Et les gens sont venus. Donc ça, c'est quand même pour dire que, je vous l'ai dit 2 ou 3 fois, ce lieu a sa raison d'être.
Et une fonction sociale qui est assumée.
Tout à fait.
Donc éclectisme, curiosité,
tout à fait.
Faculté d'émerveillement.
Voilà.
Voilà ce que nous apprend Patrick Mindron dans son magnifique, comment on va appeler ça, sa chapelle fortifiée.
Une chapelle. Une maison d'hôte.
Une maison d'hôte où les visiteurs du rez-de-chaussée peuvent contempler des artistes d'une grande variété. Patrick Mindron, merci beaucoup. Merci de votre enthousiasme. Merci de votre jeunesse.
Merci à vous.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.